Audiolibre présente Jusqu'à l'impensable de Michael Connelly, lu par Jacques Chausspied. Souvenir de Simon Christensen. Poisson d'avril. Ellis et Lang roulait dans Ventura Boulevard, direction est, à 4 voitures de la moto. Ils arrivaient au grand virage où la route oblique vers le sud et descend vers Hollywood après le col. Ellis était au volant. C'était la place qu'il préférait, même si, plus âgé que Lang, il avait le droit de dire qui conduisait et qui s'asseyait à la place du mort. Le nez sur l'écran de son portable, Lang lui regardait le flux vidéo. Ils surveillaient ce qu'ils appelaient leur investissement. Ellis aimait bien cette voiture. Elle en avait sous le capot. Il n'y avait pratiquement pas de jeu dans la direction et il s'y sentait fermement aux commandes. Il vit une ouverture dans la file de droite et appuya sur l'accélérateur. La voiture bondit. Lang releva la tête. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-il. « Je me débarrasse d'un problème.
Quoi ? »
avant que ça en devienne un. Il avait déjà rattrapé la moto et roulait à côté d'elle. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit les bottes noires du motard et les flammes oranges peintes sur son réservoir d'essence, du même orange que la Camaro. Il dépassa la moto de quelques mètres et, la route virant à droite, laissa la voiture se déporter sur la gauche en obéissant à la force centrifuge. Il entendit crier le motard, qui flanqua un coup de pied dans la carrosserie, puis accéléra pour passer. C'était l'erreur. Il aurait dû freiner et renoncer, mais il tenta de s'en sortir en mettant la gomme. Ellis s'y attendait et écrasa lui aussi le champignon. La Camaro entra en force dans la file de gauche, queue de poisson terminée. Ellis entendit couiner des freins, puis le long coup de klaxon d'une voiture au moment où la moto partait dans les files d'en face. Vinrent ensuite les grincements suraigus de l'acier qui racle le sol et le choc inévitable, métal contre métal. Ellis sourit et poursuivit sa route. Chapitre 1. Vendredi matin, les petits malins étaient déjà partis en week-end. La circulation en étant plus que fluide pour gagner le centre-ville, Harry Bosch arriva au tribunal en avance. Plutôt que d'attendre Mickey à l'heure sur les marches où ils avaient convenu de se retrouver, il décida de chercher son avocat dans la structure monolithique haute de 19 étages qui s'étendait sur la moitié d'un bloc. L'y localiser ne serait pas aussi difficile que la taille de l'immeuble le laissait présager. Après avoir franchi le portique de sécurité sans encombre, expérience inédite pour lui, il prit un ascenseur jusqu'au 15e et commença à chercher la salle d'audience en redescendant par l'escalier. Les trois quarts des chambres criminelles se trouvaient entre les 9e et 15e étages, il le savait parce que cela faisait 30 ans qu'il y traînait. Il trouva Haller à la chambre 120 au 13e. L'audience avait débuté, mais il n'y avait pas de juré. Haller lui avait dit avoir une requête à soumettre au juge et précisé que l'audience finirait avant le déjeuner et qu'ils prendraient ensemble. Bosch se glissa sur un banc au fond de la salle, dans la partie réservée au public, et regarda Haller interroger son témoin, un policier du LAPD. Il avait raté les remarques préliminaires, mais savait ce que Haller avait en tête dans cet interrogatoire.